Le message que vous allez écouter a été enregistré parmi l'assistance au moyen d'un simple iPad. De ce fait, nous vous remercions d'en supporter la faible qualité et les bruits parasites inévitables.
Relève-toi, va à Damas, Et là, on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Comme j'étais devenu aveugle à cause de cette si brillante lumière, mes compagnons me prirent par la main et me conduisirent à Damas. Il y avait là un homme qui s'appelait Ananias. Il était pieux et obéissait à notre loi, et tous les Juifs de Damas l'estimaient. Il vint me trouver, se tint près de moi et me dit « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même moment, la vue me fut rendue et je le vis. Et il ajouta « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le seul juste et que tu l'entendes parler de sa propre bouche. Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les hommes ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre encore? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en faisant appel à son nom. » Je retournais à Jérusalem et comme je priais dans le temple, j'eus une vision. Je vis le Seigneur et il me dit « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Je répondis « Seigneur, ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je jetais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements. » Le Seigneur me dit alors, « Va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs. »
Nous sommes maintenant au chapitre 27 où Paul est envoyé à Rome, puisqu'il en a appelé à l'empereur. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un officier appelé Julius, capitaine dans le bataillon romain, dit bataillon de l'empereur. Nous avons embarqué sur un bateau d'Adramite qui devait se diriger vers les ports de la province d'Asie. Et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Après être reparti de là, nous avons passé le long de la côte abritée de l'île de Chypre, car les vents nous étaient contraires. Nous avons traversé la mer près de la Cilicie et de la Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, l'officier romain trouva le bateau d'Alexandrie qui se rendait en Italie, et il nous y fit embarquer. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cnide. Comme le vent nous empêchait d'aller plus loin dans cette direction, nous avons passé par le cap Salmone pour nous trouver du côté abrité de l'île de Crète. Nous avons avancé avec beaucoup de peine le long de la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Bonport, près de la ville de Lazée. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. « Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages, et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. En outre, le port ne convenait pas pour y passer l'hiver. C'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest pour y passer l'hiver.
C'est parce que vous avez pensé en écoutant cette deuxième lecture, un discours sur la navigation ancienne, une leçon de géographie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte qui nous est proposé aujourd'hui en acte 27? C'est une liste d'endroits, on passe d'un endroit à un autre, d'un bateau à un autre. Et puis, on est laissé en suspens ce voyage vers Rome. On est dans la continuité des prédications qui nous sont proposées pour l'été. Et franchement, je me suis demandé pourquoi le choix de ce texte en acte 27. Je disais avec Philippe Cornu, et qui me discutait de ces cultes d'été, c'est intéressant parce que en fait on se trouve devant un passage qu'on ne choisirait jamais. et c'est très bien parce que nous croyons que l'ensemble de la Bible a des choses et là pour notre instruction, pour mieux connaître le Dieu de la Bible. Alors nous allons rester dans notre texte, nous n'allons pas essayer de s'esquiver. Et donc nous sommes en acte 27 où il y a ce parcours où Paul est embarqué pour Rome et c'est les étapes de son voyage. Et puis ça s'annonce relativement bien au début et de mal en pire par la suite. Et puis, il y a ces gens qui l'accompagnent et ces lieux. Entre autres, on s'arrête à Myra au cœur de notre passage 5 et 6, où il y a des changements de bateau et juste un peu d'intérêt local. C'est là, en fait, c'était le grand port du trafic entre Rome, Syrie, Égypte. Et c'était là où il y avait le dieu des matelots. Et c'est intéressant, c'est une parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, mais c'est là, je ne sais pas s'il y a des capitaines de bateau parmi nous ce matin, c'est là, à partir du 5e siècle, où il y a le saint des matelots, Saint Nicolas. J'ai vérifié en Wikipédia, il a été christianisé, et voilà, on ne savait pas à quel saint se vouer. Alors, nous entrons dans notre texte, et en écoutant ce passage, et en se plaçant dans la situation de Paul, on peut se poser la question, qui ou quoi dirige mon existence? Qui ou quoi dirige mon existence? Parce que notre passage, 27, verset 1, où s'ouvre avec la phrase « lorsqu'il fut décidé ». Lorsqu'il fut décidé. Paul n'avait pas son mot à dire. À partir du moment, comme nous a dit Jacqueline, qu'il a fait appel à César, son sort n'est plus entre ses mains. Et c'est Festus, le gouverneur romain, qui a dit « Tu iras donc à Rome ». Et c'est la suite de cette décision. Il est à la merci des forces qui ne maîtrisent point. Alors, il ne choisit pas ses co-voyageurs. Il est ce ramassis de prisonniers, des voleurs, des brigands, des meurtriers probablement qui l'accompagnent. Eux, sans doute, sont déjà jugés, condamnés à mort et sont en route pour Rome pour satisfaire cette demande insatiable de la foule de s'amuser devant l'arène où ces pauvres gens étaient jetés aux bêtes. Il ne choisira pas non plus sa manière d'aller à Rome. Il est embarqué sur ce bateau. Il avait du trafic. Égypte était le lieu qui fournissait le blé à Rome. Et il est mis sur ce bateau qui appartenait très probablement au gouvernement, l'Empire romain, parce que quand il s'agit de discuter est-ce qu'on y va, on n'y va pas, c'est la décision du centenier qui prie. Il consulte le pilote et il consulte le capitaine, mais c'est le centenier qui décide. Paul n'a qu'à suivre. Et puis Paul n'a pas rien à dire non plus concernant l'agenda. C'est déjà le texte nous le précise au verset 9, au moment du jeûne, c'est-à-dire on arrive à l'automne, et Paul sait fort bien que ça devient dangereux pour la navigation. Il va le signaler d'ailleurs, mais on ne prend pas en compte son avis, lui le prisonnier. Et effectivement, les choses s'annoncent mal. Verset 4, on a entendu, il y a des vents contraires qui commencent à souffler. Au verset 7, ils avancent à grand-peine au gré des vents. Et la question se pose, qui dirige, qui est maître de mes circonstances de vie? La question est là, sans doute, pour chacun. La navigation, verset 9, est carrément dangereuse. Et on termine notre texte court au verset 12 dans la plus grande incertitude. Ils veulent atteindre, si possible, la côte sud-ouest de la Crète. Qui est à la barre de mon parcours de vie? Ici, en tout cas, il y a de quoi susciter des doutes. De quoi se poser la question, est-ce que quelque part, en chemin, j'ai quitté la bonne voie? Est-ce que quelque part, j'ai mal compris la direction de Dieu? La tentation de chercher secours ailleurs, Dieu semble être loin. La crainte de s'être éloigné soi-même de là où on devrait être. Dans notre parcours personnel, on se pose sans doute les mêmes questions. Mes compagnons de voyage, on choisit si on est marié, mais célibataire, solobataire, on ne choisit pas forcément ses compagnons. Choix de vacances de l'été, par exemple. Mon agenda, dicté par des événements que, il me semble, je ne maîtrise plus. Mes circonstances de vie, est-ce que je me trouve aujourd'hui comme embarqué dans une aventure que je n'attendais pas du tout? Quoi ou qui dirige ma vie? J'aimerais rappeler que l'apôtre Paul était au cœur de la volonté de Dieu. Dieu lui est apparu, c'est le chapitre 23 au verset 11, pour lui dire, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, de même tu rendras témoignage à Rome. Il est au cœur de ce que Dieu veut pour lui, malgré les apparences. Longtemps avant que le gouverneur Festus prononce sa décision, tu iras, à Rome, la décision avait été prise par une autorité beaucoup supérieure. Dieu avait établi qu'il en sera ainsi. Malgré les apparences, Dieu veillait sur son serviteur. Et on peut dire que c'est exactement la même chose pour nous. Qui dirige mon existence? Il me semble que l'enseignement de ce texte est clair. Qui ou quoi, dans un deuxième temps, me donne courage dans mon parcours? Parce qu'on a vu que Paul a la permission, verset 3, d'aller chez ses amis. Dieu a un plan, un dessein qui s'accomplira dans l'éternité. Vous me dites, oui, mais en attendant, dans le quotidien, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est vrai. Où et comment trouver encouragement en cours de route? Alors, en écoutant la lecture de Jacqueline, vous avez peut-être remarqué, dès le premier verset du chapitre 27, il s'agissait de nous, comme tu as évoqué au début de notre culte. Paul n'est pas seul. Il a des sections dans les Actes des Apôtres où, au lieu de « il », c'est « nous ». Et ça indique que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a rejoint l'apôtre Paul pour l'accompagner. Il est là avec lui, comme Aristarque, qui est mentionné au verset 2, qui était mentionné aussi dimanche dernier dans l'équipe qui l'accompagnait en acte 20. Mais comment ça peut se faire que ce prisonnier peut avoir ses amis à bord? Selon les commentaires, très probablement, Luc comme Aristarque se sont annoncés comme les esclaves de Paul le prisonnier. Et c'est à ce titre qu'ils ont la permission d'être présents. Et sans doute ça l'a élevé un petit peu dans ses relations avec le centenier qui doit penser à... Mais si un médecin, il a comme esclave médecin, qui était Luc, ça doit être un homme quand même important. Il n'est pas seul. Il y a le « nous » du verset 1 jusqu'au verset 8. Et puis, il y a l'encouragement dans la vie, là où on ne s'y attend pas. Ce centenier ou capitaine de la garde qui a la responsabilité de Paul en tant que son prisonnier, il est singulièrement gentil avec l'apôtre. Au verset 3, il le laisse, quand ils accostent à Sidon, il le laisse quitter le bateau pour aller rendre visite à ses connaissances, ses amis dans ce port. Décision risquée. Et voilà, il y a ce centenier qui est bien intentionné. On ne peut pas imaginer du tout que c'était quelqu'un qui était chrétien à l'époque, mais il le laisse partir comme cela. Et souvent, dans notre vie, il y a le secours qui vient des côtés où on ne s'y attend pas du tout. Un encouragement de nos amis, pas encore chrétiens, qui sachent nous apporter encouragement, soutien. Et justement, en parlant d'où est-ce qu'on trouve courage, Paul va chez ses amis, sans doute eux chrétiens, à Sidon. Des amis qui se rencontrent dans une maison, un lieu de ressourcement, d'accueil, où on est tout simplement bien. Est-ce que vous avez de tels lieux de ressourcement pour reprendre courage? Où vous êtes tout simplement accepté, aimé? Avec des personnes avec qui nous pouvons partager nos joies et nos peines. Et puis, c'est à souhaiter qu'on trouve aussi encouragement ici. Je veux dire, dans nos églises. C'est la raison que nous venons. C'est vrai que pour certains, on a l'impression qu'on est placé les uns avec les autres que pour se frotter les uns contre les autres, comme le papy et Emery, ça se dit, pour arrondir les coins des autres. Mais non, c'est pas ça la raison qu'on est les uns avec les autres. C'est pour trouver courage, pour poursuivre la route, de se relever suite à nos chutes fréquentes. Pour se rappeler que nous avons une destination et un guide. Pour ne pas oublier que nous aussi, nous sommes l'objet et bénéficiaire de l'affection de celui qui a dit « Je vous ne laisserai jamais, jamais je vous abandonnerai. » Car, en fait, le lieu d'encouragement par excellence, c'est dans la présence de Dieu lui-même. Dieu lui-même cherche à nous encourager. Il veut nous rappeler, comme c'était dit dans la prière, il veut être à ces rendez-vous privilégiés à côté desquels nous passons si facilement. Il est là, présent, par son esprit, et ça nous donne de nouveaux départs. Déjà au chapitre 18, il s'est présenté à Paul, je lis, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, parle, ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. » Et dans notre chapitre 27, c'est exactement la même chose, un peu plus loin que là où nous avons vu, un ange de Dieu, verset 23, s'est approché de moi cette nuit, et m'a dit, verset 24, « Sois sans crainte, Paul. » Sois sans crainte, Paul. Il nous connaît chacun par notre nom. Sois sans crainte, petit troupeau. Courage, je suis là tous les jours, malgré les tempêtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de notre texte un peu obscur? On peut dire avec assurance, nous ne sommes pas le jouet d'un sort impersonnel ou qui nous soit contraire. Pas besoin de se vouer à un saint quelconque. Dieu n'est pas moins souverain dans nos circonstances. Dans notre parcours, quand nous le mettons à l'égard de nos vies, de nos églises, il vient pour nous accorder encouragement, pour nous redonner force et courage, pour être son témoin, comme l'apôtre Paul était appelé l'être, comme chacun de nous aussi. Sont appelés à l'être. Courage pour avoir une passion retrouvée dans ce sens que connaître Dieu donne à notre vie, notre existence, notre parcours. Donc, nous terminons en laissant Saul, le persécuteur de l'Église, devenu Paul, l'apôtre témoin du Christ, en route vers Rome. Oui, il y a encore des défis qu'il doit affronter. Vous allez les écouter dimanche prochain. C'est la suite du chapitre pour ce témoin de Jésus. Mais on le laisse confiant que malgré les apparences, c'est Dieu qui dirige son parcours, qui est souverain dans sa vie. Il peut aller de l'avant dans la paix. Fortifié, c'est vrai, par l'encouragement de ses amis, avec cette assurance de la présence de son Seigneur. Donc il poursuit avec confiance et on le trouve à la fin du livre, faisant exactement ce que Dieu avait dit allait se passer. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué à Rome et recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute assurance et sans empêchement. Dieu a veillé sur son plan. Il veillera aussi sur notre parcours et sur notre arrivée à destination également. Amen.